Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphresne.
Je reçois aujourd'hui le philosophe Jean-Luc Marion, membre de l'Institut Pré-Ratzinger 2020, qui se livre au journaliste Paul-François Paoli, lui-même passionné par la vie des idées. Cette conversation s'appelle « À vrai dire », elle est publiée aux éditions du Cerf. On n'y parle pas que de philosophie, Jean-Luc Marion explique aussi son action, fait des mises au point, convoque beaucoup de personnages qui ont compté dans sa vie intellectuelle, dans la vie intellectuelle aussi de l'après-concile. Il analyse cette époque, précisément marquée par tant de bouleversements, et sa vision des choses nous intéresse forcément pour mieux comprendre la situation présente où la question de Dieu ne cesse de se poser, où nos contemporains, dans la confusion des idées, dans le chaos du monde, cherchent éperdument des réponses alors que l'horizon est bien obscur et indéchiffrable. Jean-Luc Marion avec nous jusqu'à 8h ce matin. Bonjour Jean-Luc Marion.
Bonjour.
Habituellement, je vous connais avec le nœud papillon, comme oui. Michel Maffezoli. Vous ne l'avez pas mis ce matin.
Oui, non. Pardon.
Non, mais je vous en prie. C'est... En revanche, il y a la traditionnelle pipe, d'ailleurs, qui est aussi en photo sur cet ouvrage avec Paul-François Paoli. Il y a une question d'image qui compte, Jean-Luc Marion, aussi pour vous. Qu'est-ce que vous représentez, en fait, dans le paysage intellectuel français?
Eh ben, j'espère ne rien représenter du tout. Présenter, pas représenter.
C'est-à-dire
je ne suis pas en représentation. J'essaie justement de n'être pas en représentation. Plus vous devenez un peu public, et quand vous êtes enseignant et écrivain, vous êtes forcément public, plus il faut faire abstraction de votre image. Peut-être pour ça qu'il faut toujours garder la même.
Voilà. Vous avez le sentiment de ne pas avoir changé?
Oui, profondément. Oui. J'ai même l'impression, étrangement, que tout s'est passé la veille. Je suis absolument entre ce que j'étais quand j'étais étudiant et maintenant. La seule différence, c'est que je suis arrivé en gros à dire ce qu'à l'époque je ne savais pas encore, mais que je voulais déjà dire. Voilà.
Donc il y a une forme d'accomplissement quand même.
Oui.
Au fil du temps. Jean-Luc Marion, vous êtes associé aussi à beaucoup de noms, à d'aventures que vous racontez d'ailleurs dans cet ouvrage, celle de Communio. Votre nom est associé à celui évidemment de Jean-Marie Lustiger, de Jean Duchesne, de beaucoup de noms qui ont compté, qui résonnent aussi dans le diocèse de Paris. Qu'est-ce qui caractérise en fait l'époque présente par rapport à celle quand même que vous avez vécue? On a l'impression que cette époque est forcément derrière nous et qu'une autre est beaucoup plus difficile à identifier, celle que nous vivons aujourd'hui, où les questions philosophiques ne se posent peut-être pas de la même manière.
Je crois que pour la génération de 68, les affrontements idéologiques étaient forts, mais en un sens restreint et conservateur. Je veux dire par là que la droite et la gauche, pour parler bêtement, se battaient sur l'organisation ou la réorganisation de la société, sur des formes d'administration des choses par les hommes, présupposant que la société, l'histoire, la nature étaient là et resteraient là. Nous sommes entrés, nous, dans une situation où la question n'est plus de savoir comment organiser la société, c'est de savoir s'il y aura encore une société. La question n'est plus de savoir quels sont les droits des hommes, le problème est de savoir combien de temps il y aura encore des hommes, et surtout de quel type. C'est-à-dire que, si je puis dire, nous, à force de défendre les droits de la terre et les droits des animaux, et de faire attention à critiquer le règne de l'homme, on en arrive à la conclusion que la terre a des droits sur nous, les animaux ont une âme et que nous n'en avons pas. Et ce qui est en fait la doctrine officielle. L'homme est une sale chose, une sale bête, et les bêtes ont une âme. Et ça vaut d'une certaine manière pour le rapport à la nature dite inanimée. Alors, je caricature, mais c'est pas moi qui caricature, c'est le discours ambiant qui se caricature lui-même. Mais ceci indique très bien que l'avenir n'est pas le réaménagement du passé, ce que la pensée du 19e siècle croyait profondément. Oui. L'avenir est de savoir si nous avons. Impossible, et lequel? Et surtout, si nous voulons vraiment avoir un possible, si nous l'acceptons. Et je crois qu'il y a une curieuse situation dans laquelle nous savons que le possible n'est pas garanti, nous savons que l'avenir, en un sens, ne peut pas venir de nous, parce que nous sommes épuisés dans nos conceptions, comme nous le sommes déjà dans nos ressources, comme dans, nous commençons à l'être dans la démographie, parenthèse, la menace du surpeuplement, maintenant, elle commence à s'inverser, c'est la menace du vieillissement. On vient d'apprendre que la Chine est dans ce processus, on le savait depuis longtemps. Donc, est-ce que nous avons encore un avenir? Est-ce que nous voulons en avoir un? Est-ce que nous avons encore la force d'accepter un avenir? Et je n'en suis pas sûr. Je pense que...
Il y a une forme d'extinction.
Oui, il y a une forme d'extinction. Voire d'aspiration à ce que, à en finir.
Alors ça, ce n'est pas forcément extrêmement réjouissant, Jean-Luc Marion, par rapport à un certain optimisme qui a prévalu dans l'époque de l'après-concile, en tout cas pour l'Église. Est-ce que cela signifie quelque chose? Est-ce que ça signifie...
Mais je pense que votre question est bonne. Je pense que dans les années 60, l'atmosphère était généralement la reconstruction, la construction, le développement d'un avenir démocratique, libéral, riche économiquement, etc. Et l'Église, qui avait du retard à rattraper, l'a fait. Et du coup, une partie des textes du Concile apparaissent comme marqués d'un optimisme, si je puis dire, démocrate chrétien, de bon aloi, mais qui maintenant n'est plus conforme à la réalité. Ce qui entraîne une chose étonnante, c'est que très souvent, on disait, Vatican II, n'est pas un concile dogmatique, c'est un concile pastoral. Ben, la dimension pastorale a sans doute beaucoup vieilli, reste maintenant les accomplissements doctrinaux, en particulier le texte sur la révélation, Dei Verbum, qui est un très grand texte théologique et qui, si je puis dire, restera. Donc il y a maintenant peut-être une lecture plus rééquilibrée et, à mon avis, qui va le réévaluer de Vatican II. Ce qui fait que je suis content que ce volume de conversation soit sorti peu de temps après mon livre plus systématique et plus ambitieux sur la révélation. Parce que d'ailleurs, la révélation, d'une certaine manière, c'est une prise au sérieux de Dei Verbum. Pour l'Église... il va falloir que l'Église assume à nouveau un discours des fins dernières.
La philosophie ne peut plus rien dire sur Dieu, hein, c'est ce que vous écrivez, page 51. Est-ce qu'il y a une ambiguïté à lever là ou quelque chose
Non,
à lever,
je veux dire la métaphysique. Hein. Ce que je veux indiquer là, c'est que l'athéisme de la mort de Dieu, c'est pas du tout le fait que Dieu est mort, puisque ce serait contradictoire. Si Dieu est mort, c'est qu'il n'était pas Dieu, donc... là, bon. Rationnellement, on ne peut pas dire Dieu est mort. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la métaphysique, dans son accomplissement, a manqué ce qu'elle avait désigné elle-même comme ses objets par excellence. C'est-à-dire, à propos de Dieu, la métaphysique ne peut plus rien dire. Tout ce qu'elle dit tombe sous le coup d'une idolâtrie. C'est-à-dire, si tout ce qu'on peut dire à propos de Dieu, quand on le dit... dans le langage de la métaphysique, devient une idole, Nietzsche l'a très bien montré, à propos d'un autre objet de la métaphysique qui est l'objet de la psychologie rationnelle, comme il disait, c'est-à-dire l'ego, l'âme, le sujet, finalement, la métaphysique aboutit à dire que le sujet, c'est soit l'abstraction du sujet universel, ce qui fait des mathématiques ou de la logique, et que tout le monde peut être, mais que personne, au bout du compte, n'incarne, et l'inconscient. C'est l'inconscient qui est la vérité de ce que la métaphysique peut dire sur le sujet. Mmh. Et à propos du monde... c'est pareil, hein. C'est ce que le monde devient comme la totalité des objets dans la métaphysique, eh bien c'est le monde de la crise écologique.
Mais qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Luc Marion, sur Dieu en fait aujourd'hui?
Mais le problème n'est pas de dire quelque chose sur Dieu. Dieu n'est pas l'objet d'un discours. Pas plus d'ailleurs que dans une relation intersubjective, l'autre, face à autrui, vous ne dites pas quelque chose sur lui. Vous dites quelque chose à lui. Bon, ben, Dieu, par excellence, vous imaginez que vous soyez face à Dieu et que vous me mettiez à dire Dieu, ben, voilà comme... Vous savez, quand on parle à une personne, en présence d'elle, sans s'adresser à elle, en disant « il », à un troisième, il n'y a rien de plus humiliant.
Mais l'Église catholique, c'est bien ce qu'elle fait. Elle parle bien d'un tiers qui est Dieu, qui s'est révélé.
Dans l'Église catholique, fondamentalement, elle parle à Dieu, dans la liturgie et dans la prière. On parle de Dieu, j'allais dire à ceux qui n'y croient pas, éventuellement, ou dans un discours sous brosa. Mais en vérité, être chrétien, c'est parler à Dieu. C'est même le privilège de ceux qui pensent que Dieu est un père, donc on lui parle. Donc, la relation intersubjective, le mot n'est pas bon, enfin, gardons-le, est toujours une relation à. Donc, une des raisons de, disons, l'athéisme, l'incroyance, l'indifférence, c'est que les gens disent que ils doivent savoir des choses sur Dieu pour pouvoir parler sur Dieu, et éventuellement on verra si on va parler à Dieu ou si Dieu nous a parlé.
Donc ils confondent connaissance, croyance.
Non, c'est pas.
Il faut connaître en fait pour aimer, ou pour appréhender une réalité.
Non, je dirais que la plupart du temps, les gens qui s'interrogent sur Dieu, ce qu'il existe ou pas, ils veulent le connaître pour se dispenser de l'aimer. Comme la plupart des choses que nous connaissons, ne pas nécessairement les aimer. Et quand vous aimez quelqu'un, d'une certaine manière, vous ne le connaissez pas beaucoup, pas nécessairement. Aimer quelqu'un, ça n'est pas le connaître. On peut même dire qu'on l'aime aussi longtemps qu'on arrive à l'aimer, à pouvoir ne pas encore le connaître. Parce que le jour où on a l'impression d'en avoir fait le tour, à ce moment-là, ça va être difficile de continuer à l'aimer. Donc on aime quelqu'un aussi longtemps qu'on ne le connaît pas parfaitement. Qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas réduit au grand objet. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut expliquer. L'Église, c'est l'ensemble des gens qui parlent à Dieu.
Là, vous êtes un interprète de la pensée d'Heidegger, Jean-Luc Marion.
Oui. Bon,
expliquez-nous quand Heidegger, de manière compréhensible pour le public, hein, évidemment, ça je vous fais confiance, la distinction entre l'être et les temps, pourquoi Dieu est-il au-delà de la connaissance, au-delà de l'être, au point qu'on ne puisse rien en dire ? Un peu comme chez Kant aussi, la chose essentielle est inaccessible à notre entendement. Dans ce cas, on parle de quelque chose dont on ne peut, par définition, ne rien dire.
On va laisser tomber Kant et Heidegger pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et tout dépend de ce que vous entendez par dire ou savoir. Et, par exemple, la définition de Dieu, si je puis dire, c'est qu'il n'en a pas. Bon, Dieu est infini, Dieu n'a pas de définition. S'il avait une définition, ce ne serait pas Dieu.
On est toujours dans ces certitudes négatives, hein, ce qui est le titre de l'un de vos ouvrages.
Faut être sérieux. Si on a une définition de Dieu, c'est que ça n'est pas Dieu. Bon, donc Dieu est incompréhensible étant infini. Ça fait partie de sa définition. Alors, faut être sérieux et partir de là. Alors, est-ce que nous pouvons penser à ce qui nous est incompréhensible ? Ben, la réponse est oui. Le fait que nous ne comprenions pas est une détermination, si je puis dire, positive. C'est-à-dire, tout ce que nous pouvons définir, nous savons déjà que ça n'est pas Dieu. Bah, ça dégage l'horizon, quand même. Et ce qui est magnifique, tout à fait clair, c'est que nous avons une analogie de ce rapport, encore une fois, dans le rapport érotique. La personne que nous aimons, que nous croyons aimer, que nous voudrions aimer, dont nous voudrions être aimés, elle a comme caractéristique qu'au fond, nous ne savons pas ce qu'elle veut. Ça ne veut pas si elle nous veut ou pas, et c'est pour ça qu'il se passe quelque chose. Donc, l'incompréhensibilité d'autrui n'a jamais empêché, au contraire, que j'ai un rapport avec lui. Alors, a fortiori, en cas de Dieu. Le problème, c'est que nous sommes tellement habitués au cas, en fait, très particulier, très restreint, où nous pouvons définir ce que nous connaissons, c'est-à-dire des objets, que nous avons du mal à sortir de cette situation épistémologique pour aller vers l'autre, qui est pourtant l'essentiel. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui est magnifique dans la révélation chrétienne, celui qui dit « mais le cas de Dieu est tellement exceptionnel que ça ne me concerne pas », on peut lui répondre « attention, il y a un autre cas très exceptionnel qui vous concerne toujours, c'est la relation à autrui. Ça, vous ne pouvez pas en faire l'économie, vous n'avez jamais fait l'économie. » Et c'est pourtant ça c'est le même type de relation qu'avec Dieu. Il y a même encore une chose plus extraordinaire. Comment sommes-nous en contact avec ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne comprendrons jamais, et qui pourtant nous définit ? Il y a deux événements qu'on passe son temps à mettre entre parenthèses dans notre belle société. C'est la naissance et la mort. Et la naissance, c'est bien quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. beaucoup de gens en savent plus que moi sur ma naissance. Moi, je ne saurais jamais le fond de l'affaire. C'est cet incompréhensible-là qui me rend possible. Et la mort, ça va être la même chose en sens inverse. Enfin, peut-être. Mm. Bon. Et c'est dans cet horizon que se pose véritablement la question de Dieu. Sinon, c'est de la plaisanterie.
Est-ce que ça va à rebours d'un effort que l'Église catholique ou des penseurs catholiques ont entrepris jusqu'à une période assez récente qui a consisté à allier foi et raison et à donner des cadres, saint Thomas d'Aquin, des voies pour accéder à la compréhension de ce qui n'était pas compréhensible?
Pas du tout. J'espère être dans ce calme. Mais toute la question de savoir, quand on dit foi et raison, ce qu'on entend, le terme indéfini, c'est raison, c'est pas foi. L'encyclique Fides et Ratio, par exemple, remarquable texte, juxtapose, c'est là qu'on peut discuter, juxtapose plusieurs définitions de la raison. Il y a la foi, la sagesse, au sens de la sagesse biblique ou de la sagesse des Grecs. Il y a la philosophie, au sens de la recherche de l'être de l'étang. Il y a la rationalité moderne. Il y a la métaphysique elle-même, et puis il y a la raison théologique. Bon, le problème, c'est de savoir quel est notre modèle de raison. Si vous avez un modèle de raison extrêmement étroit, objectiviste, totalement dépassé scientifiquement, ça va sans dire, vous avez un contrat...
Donc le thomisme.
Non, je parle thomiste. Là, je pense au rationalisme mécaniste.
Enfin, à l'esprit de système, en tout cas, que vous attaquez pas mal aussi, mais
sûr,
même
bien
dans
bien
l'Église.
Sûr,
hein.
Bien sûr. Et... À ce moment-là, vous avez une contradiction entre la foi et la raison. C'est le combat des Lumières et de la tradition. Si vous avez une vision non métaphysique, non systématique de la raison, ce qui est la situation contemporaine des sciences même exactes, hein, où il n'y a plus d'objets, mais il y a des événements qui tiennent lieu d'objets non répétables, etc., non reproductibles et non totalement mesurables. Eh bien, dans ce cas, le contraste entre la foi et la raison peut disparaître. Ce qu'on peut reprocher, s'il faut reprocher quelque chose, à la théologie post-médiévale, c'est d'avoir eu une acception trop étroite de la rationalité. Une rationalité qui était empruntée aux commentaires d'Aristote, etc., etc., et qui a laissé filer, si je puis dire, la foi hors de la rationalité. Mais la foi est essentiellement et profondément rationnelle. Vous savez, la définition de la foi, Vincent Caro a fait un très beau livre récemment là-dessus, « Ce que c'est la foi ». La foi, c'est pas un tenir pour vrai de quelque chose qu'on peut pas démontrer. La foi, c'est ayant vérifié la vérité de la parole de Dieu sur certains points, nous faisons confiance à Dieu pour que la suite de ses promesses soit tenue. Les arts de la parole de Dieu, les arts des promesses de Dieu, nous les avons déjà reçus et nous pensons que le reste va suivre. Donc la foi est une compréhension déjà acquise, qui anticipe sur ce qui est encore à venir et à comprendre. Donc la foi n'est pas irrationnelle. Donc foi et raison, foi égale raison, mais à condition que la raison ait foi en elle.
Jean-Luc Marion, vous étriez un moment, je vois que le temps passe, vous étriez Marcel Gauchet à un moment, désenchantement du monde, sa vision.
Marcel Gauchet est quelqu'un que je respecte beaucoup, on se connaît, on se parle, on s'entend. Ce qui m'exaspère un peu, c'est la tendance partagée aussi par mon ami Luc Ferry, par exemple, consiste à dire le christianisme, c'est très bien, pour deux raisons. D'abord, parce que ce qu'il dit, évidemment, ne se réalisera jamais, mais c'est tellement beau. Simplement, on congédie tout ça en disant c'est trop beau pour être vrai. Bon, ça, c'est du Luc Ferry. Ou bien on dit le christianisme, c'est admirable, c'est la religion qui nous permet de sortir de la religion. Ça, c'est Gaucher. Alors, le christianisme n'est peut-être pas une religion. On fait très attention à ce moment-là de ne pas définir la religion, parce que c'est un tel fourre-tout que ça n'a aucun sens. Le christianisme n'est pas une religion, c'est pour ça que ça permet de sortir des autres religions, ça d'accord. Mais le christianisme n'est pas une religion au sens étroit du terme. On ne peut pas comparer le christianisme à autre chose, sinon ce qu'on appelle le judaïsme, c'est-à-dire la même chose. Bon, donc ça n'a pas de sens. Et donc, il y a une manière de tirer un coup de chapeau au christianisme pour ne pas en tenir compte, pour l'utiliser à autre chose. Alors là, vous m'accorderez que j'ai le droit d'être un peu nerveux.
Sur quoi, Jean-Luc Marion, justement, ce christianisme devrait-il se centrer aujourd'hui pour être à fond en phase avec son époque. Ce qui est la caractéristique aussi de la religion chrétienne, c'est qu'elle est, elle a toujours essayé de s'actualiser au fur et à mesure de l'époque.
Donc, non.
De coller à son temps.
Non, de faire en sorte que le temps partiellement colle à elle. C'est un peu différent. D'être pertinente, pas d'être adaptée. Sitôt que le christianisme s'adapte, surtout si s'adapte très bien, il disparaît. C'est un des drames de la réforme. C'est que la réforme s'est adaptée aux sociétés modernes, au point que les églises luthériennes ont tendance à se diluer dans ces sociétés, et les calvinistes aussi. Donc le fait que le catholicisme ne se dilue pas dans, comme le communisme est-il soluble dans l'alcool, comme on disait, hein, ben le catholicisme n'est pas soluble dans le Coca-Cola. Donc il faut que l'écart demeure. Autrement,
il demeure aujourd'hui.
J'espère bien, mais l'écart ne veut pas dire la marginalisation, la critique. Ça veut dire que il y a un endroit dans les sociétés, si je puis dire, où la densité est plus forte et qui ont un pouvoir d'attraction. Le grand problème de l'Église, ça n'est pas de s'adapter, surtout pas de s'adapter. C'est de faire en sorte que sa différence soit perçue, comme ce qu'elle est au fond, comme un élément positif pour le reste de la société. Alors, le reste de la société n'a pas compris. Donc, il continue à faire la même chose. Hein. On tue, on fusille des chrétiens au moment de la Commune, en disant que c'est des Versaillais. Évidemment, s'ils étaient restés, c'était parce qu'ils n'étaient pas des Versaillais. Bon, on les descend. Un siècle après, les gens vont faire une procession, on leur tape dessus. Alors, qui est-ce qui n'a pas changé et qui est complètement bloqué? Ben, c'est évidemment les gens qui tapent sur les cathos dans le même moment. Mais le problème, c'est que la société ne voit pas ou ne veut pas voir que l'Église, en particulier l'Église catholique, est ce qui peut faire une différence. Voilà.
Ce qui n'est pas soluble. On restera cette idée-là, hein, Jean-Luc Marion.
Ce qui n'est pas soluble. Voilà.
On aimerait savoir, évidemment, on aura l'occasion de se revoir, malheureusement, de mettre un terme à cette conversation. Conversation, c'est précisément en écho à l'ouvrage avec Paul-François Paoli qui s'appelle « À vrai dire ». Aux éditions du Cerf, où est d'ailleurs est édité une partie de votre œuvre, hein, tout récemment, avec un ouvrage tout à fait substantiel, « Révélation », Jean-Luc Marion. Et puis, on aura l'occasion...
Non, d'ailleurs, la révélation, c'est chez Grasset. Là, ce que j'ai donné, ça s'appelle « Parole donnée », c'est un...
On le mettra sur Internet. Merci.